C'est l'histoire d'un dompteur de tigres qui appartient à l'une des plus grandes lignées de circassiens. Un jour de mai 2017, il décide de raccrocher son fouet pour dénoncer les conditions de dressage et de captivité des animaux. Son nom est André-Joseph Bouglione et sa décision n'est pas passée inaperçue dans un contexte général où le public cautionne de moins en moins les spectacles avec des animaux. Avec sa femme Sandrine, il annonce dans la foulée la création d'un éco-cirque. André-Joseph Bouglione est mon invité dans un instant avec Alexandra Morette, la présidente de l'association Code Animal, qui a été l'une des premières à sensibiliser à la maltraitance des animaux sauvages en captivité. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant avec vos messages, vos questions, 01 45 24 7000, franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert avec vous dans un instant.
Oui, le plastique c'est fini, et le gouvernement l'assure, mais en 2040, dans 20 ans.
C'est ça, on a un peu de temps quand même. Dans la deuxième demi-heure, un nouveau reportage signé Guy Vangtil sur les data centers en Islande. Et puis notre invité découverte est le chercheur Laurent Chauveau qui publie un livre passionnant sur la coquille Saint-Jacques. Il nous dira tout, par exemple, sur le chant de ce mollusque. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Arthur Le Breton.
Mathieu Vida, la Terre au carré. Sur France Inter.
Monsieur Serge Spiesser, je crois que vous aussi, vous avez une charge énorme dans ce cirque Pinder ou RTF, puisque vous vous occupez de la partie animaux, ménagerie. Combien d'animaux avez-vous ?
Nous avons 120 fauves. Panthères, panthères mouchetées, panthères bleues, panthères noires. Nous avons également un couple de lynx qui vient nous arriver de Sibérie.
Des éléphants aussi, je crois.
Nous avons les éléphants, les 7 éléphants, évidemment, énormes. Et nous avons également une très grande variété de singes.
Vous n'avez pas eu de naissance, là, récemment, au cirque Pinder ?
Si, il y a 10 jours, nous avons eu un jeune ourson, un petit grizzly, qui est superbe, il a l'air de bien partir.
Voilà qui fera le plaisir de tous les enfants qui viendront d'en visiter votre ménagerie.
Voilà, sauf que ça, c'était en 1965, car aujourd'hui, les animaux dans les cirques ne sont plus du tout perçus de la même manière. André-Joseph Bouglione et Alexandra Morette, on en parle avec vous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là. André-Joseph Bouglione, votre nom évoque à lui seul, évidemment, la grande famille du cirque. Vous avez été donc dompteur, vous avez imaginé un éco-cirque, justement, en lien avec l'arrêt de votre profession de dompteur. Vous êtes l'auteur d'un livre contre l'exploitation animale, publié aux éditions Tchou. Et puis Alexandra Morette, vous êtes-vous la présidente de cette association Code Animal. Quelle est la vocation d'ailleurs exactement de l'association ?
Alors on travaille sur la captivité des animaux sauvages pour les divertissements. Donc en fait on fait des enquêtes de terrain, on informe et après on remonte toutes ces informations aux dirigeants politiques pour avoir des changements de société.
Ouais, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant. Hein ?
Effectivement, c'est ça. Donc on travaille depuis 10 ans. On était la première association, enfin l'une des premières en tout cas, à travailler sur les animaux sauvages dans les cirques et la première à avoir pris contact avec les élus locaux notamment.
Ouais. André-Joseph Bouglione, vous aviez entendu parler justement de l'action de cette association il y a quelques années, avant de prendre vous votre décision d'arrêter d'utiliser des animaux ?
Et bien entendu, et même on s'est combattu quelque part à une époque.
J'imagine.
Et oui, c'est très drôle d'ailleurs. Quand j'ai arrêté de présenter des animaux sauvages et quand j'ai commencé à l'expliquer publiquement, eh bien, mes confrères, ma famille, mon métier, tout le monde s'est retourné contre moi. Et à ce moment-là, eh bien, mes amis étaient, en fait, c'est curieux, les personnes qui me combattaient avant.
Ouais. C'est ça.
C'est très drôle.
Et votre famille, comment elle a réagi justement lorsque, il y a maintenant 2 ans, vous avez annoncé officiellement que vous arrêtiez de vous occuper d'animaux dans le cirque, hein ?
Ma famille est au courant depuis quelque temps déjà et ça se passait pas bien. Ouais. Ils me disaient que j'avais raison mais qu'il fallait pas le faire. Ouais. C'est assez paradoxal. Eh oui, moi je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas nier une évolution sociétale aussi évidente.
Qu'est-ce qui a changé justement par rapport à 1965 où on allait en famille évidemment voir les animaux dans les cirques sans aucun problème, sans se poser même la question de leurs conditions de vie ?
Eh bien, tout a changé. Regardez, certains films de l'époque ne pourraient pas être tournés aujourd'hui. Voilà, la mentalité a évolué. Ne serait-ce que dans les années 70, il y a un film qui s'appelait La Cage aux Folles qui a été un succès formidable. Aujourd'hui, il ne pourrait même pas être tourné. Le regard de la société a évolué. Et malheureusement, le métier du cirque est resté bloqué dans une espèce de nostalgie, un petit peu surannée des années 60, 70, d'une sorte d'âge d'or du cirque. Et il n'évolue plus. Depuis cette époque-là. Mmh. Voilà. Et ça, c'est dommage. Pourtant, le cirque a tout le temps évolué dans son histoire. À une époque, je rappelle qu'on présentait quand même des freaks, des monstres humains, ouais, qui étaient en fait des personnes en situation de handicap. Eh bien, à une époque, les cirques ont compris que ça ne se faisait plus, que ça choquait le public, et qu'ils ont arrêté de le faire, évidemment. Et aujourd'hui, ces personnes en situation de handicap font les Jeux Olympiques, ont des responsabilités dans la société civile, enfin, c'est extraordinaire. Mmh. Vous voyez comment le regard a changé. C'est toujours une question de regard.
Qu'est-ce qui a été finalement le déclic pour vous dans cette décision d'arrêter d'être dompteur? Alors, il y a eu un événement particulier?
C'est vrai qu'il y a eu un événement dans notre histoire assez particulier. C'est ce jour où on a commencé à percevoir notre activité différemment. C'est lié à un tigre qui s'appelait Madras, qui était vieux et qui naturellement, bon, quand... comme tout le monde, quand on vieillit, on a des problèmes de santé. Et lui, il a eu un problème de paralysie des membres inférieurs. Ça s'est passé très vite. La veille, il était parfait. Et le lendemain matin, il avait cette paralysie. On n'a rien pu faire, mais le premier jour, il y avait spectacle. Et évidemment, avant de pouvoir le soigner, il y avait le spectacle et on l'a séparé du reste du groupe. Mais au moment de l'envoyer, au moment d'envoyer le groupe dans la cage pour le travail, pour le spectacle, eh bien, on a vu Madras se traîner dans la cage et essayer d'y aller. Il ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas y aller. Et c'est là qu'on a perçu finalement notre activité avec un œil beaucoup plus acerbe et critique. Ouais. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, cet animal, on avait toute notre vie essayé de lui donner le maximum de bien-être, mais qu'en réalité, on l'avait manipulé, on l'avait dénaturé au point que cet animal qui avait sa place à l'état sauvage m'en voulait de ne pas le laisser aller faire le zouave en piste. Mmh. C'était fou, il n'était pas là pour ça. C'était une évidence à ce moment-là pour moi. Ce jour-là, on a présenté les fauves en cage en se retenant de pleurer, c'était très dur.
Alexandra Moret, justement, comment est-ce que vous avez procédé pour étudier précisément la condition de la vie des animaux en captivité dans les cirques? Vous avez fait un travail quasi scientifique, hein, en tout cas basé sur la science.
Effectivement, en fait, on s'est appuyé sur nos enquêtes de terrain où on a des bénévoles qui vont dans les cirques assister au spectacle pour voir un petit peu ce qui se passe avec les animaux. Et on a un petit peu comparé ces images-là avec le milieu naturel et on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Donc on s'est tout de suite rapproché d'éthologues comme Julie Lane, par exemple, qui ont analysé un petit peu les mouvements des animaux, notamment, pour prendre un exemple concret, les stéréotypies. Donc c'est des mouvements qui sont répétitifs et qui n'ont pas de but en soi sur les fauves. Donc tout le monde peut le voir, en fait. C'est un fauve qui fait les 100 pas dans sa cage. Vous avez la même chose sur les éléphants qui se balancent de gauche à droite. Et on s'est rendu compte que c'était en fait un mal-être profond des animaux parce qu'ils sont frustrés de ne pas exprimer un comportement naturel que les congénères en milieu naturel peuvent exprimer. Mmh. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème et on a voulu sensibiliser justement par rapport à tout ça.
Vous êtes très écouté maintenant finalement, même les municipalités aussi sont très attentifs finalement à ces conditions de vie des animaux.
C'est ça, en fait on a réussi avec l'aide d'autres personnes à propulser en fait la cause animale en tant que sujet politique. Mmh. Et aujourd'hui, on a 400 villes qui se positionnent, près de 400 villes qui se positionnent, dont Tours et Paris assez récemment, des grandes villes, via l'adoption d'un vœu symbolique. Donc c'est ce qu'on a mis en place nous chez Code Animal et qui permet à la mairie en fait de prendre position pour des cirques sans animaux, sur la base du bien-être des animaux en fait, et qui encourage le gouvernement, qui est aujourd'hui le seul à pouvoir promulguer une loi d'interdiction qui l'encourage à avoir une loi d'interdiction.
Justement. Donc pour l'instant, on n'y est pas.
Hein.
Cette
là,
loi,
presque,
cette loi
espère.
N'existe pas encore. Et vous le dites vous-même, c'est symbolique. C'est-à-dire Paris, par exemple, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres villes en France et en Europe qui décident d'interdire les animaux dans les cirques. En réalité, on va encore voir des cirques avec des animaux.
Mmh. Alors en fait, le vœu, effectivement, ne permet pas d'interdire. En revanche, il y a une position forte de la mairie qui refuse les animaux sauvages dans les cirques et qui encourage un cirque sans animaux. Mmh. Et via cette aura, en fait, les cirques avec animaux ne viennent plus vraiment sur la municipalité. Et le public, via cette prise de position du conseil municipal, ne va pas de toute façon voir ce genre de spectacle.
Est-ce qu'il y a des pays qui interdisent vraiment les cirques sur leur territoire?
Alors, par exemple, on a 24 pays sur 28 dans l'Union européenne, quand même, donc on est bon dernier en France, qui interdisent partiellement ou totalement la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Vous avez l'Italie, par exemple, qui a promulgué une loi l'année dernière, en fin 2018, ou l'Espagne, le Portugal, ouais. Assez récemment.
André-Joseph Bouguillon, c'est un pas quand même en avant? Pour le bien-être animal.
Évidemment, pour le bien-être animal et puis pour la perception des problèmes environnementaux. C'est lié parce que nos animaux sont des animaux sauvages qui vivent aujourd'hui à l'état sauvage, une véritable tragédie, puisqu'ils sont en voie d'extinction. Et continuer à en avoir en captivité juste pour faire du spectacle et dans un but commercial, c'est indigne, alors qu'on ne peut pas remettre les petits à l'état sauvage. Il est là, on n'est pas du tout des défenseurs des animaux, on est des exploiteurs. Il est là le problème.
Alors du coup, vous avez imaginé un éco-cirque. Alors là, vraiment, le cirque écolo, mais de bout en bout, hein, c'est ça ?
100% humain. Ouais.
Alors ça va commencer, je crois, en avril prochain.
Au mois d'avril, ouais.
Ce sera quoi, alors, en quelques mots, qu'est-ce que vous allez faire de super écolo dans ce cirque ? D'abord de la pédagogie, hein, sur l'environnement, je crois.
Alors, il y a plein d'aspects. Il y a un aspect pédagogique par rapport au spectacle que on est en train de créer uniquement pour les écoles. Et il y a également le spectacle tout public. Dans le spectacle pour les scolaires, il y aura une conférence au début avec les hologrammes où on expliquera aux enfants que les animaux sont mieux à l'état sauvage. Enfin, il y aura tout un discours autour de ça et avec la technologie holographique qui va servir d'appui pour présenter ce discours aux enfants. Puis ensuite, ça sera suivi d'un spectacle. Et un spectacle, le top du top. C'est-à-dire, on est en train vraiment de caster les meilleurs artistes du monde actuellement. Ouais.
Et alors, vous allez éviter d'utiliser des camions. Je crois qu'il y aura plus de plumes, par exemple, ou de cuir dans le spectacle pour les costumes. Enfin, vous allez vraiment là où vous pouvez faire un effort.
Ouais, ben alors pour ça, j'en suis très fier. On est le seul cirque au monde, et peut-être le premier, je pense, à avoir zéro camion et à tourner dans toute la France. Voilà, on va sous-traiter avec des transporteurs locaux. Ça va permettre de générer des retombées économiques. Voilà. Et ça, c'est important. On va également, socialement, c'est important de le dire parce qu'on va engager dans tous les lieux où nous allons nous trouver. Par exemple, à Strasbourg, Montpellier, Paris, etc. Toutes les villes en France, on va engager sur place au moins une cinquantaine de personnes pour travailler et pour faire vivre l'éco-cirque.
Donc vous allez faire du local.
Du local, exactement. Bon. Mais le spectacle, les costumes seront sans matière animale.
On va en parler tout à l'heure avec vous, on donnera d'autres détails. En tout cas, vous défendez tous les animaux, parce que vous avez même un badge au revers de votre veste. Le cheval, ça ne se mange pas.
Exactement.
André-Joseph Bouglione, voilà, notre invité avec Alexandra Morette. Vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent en ce moment même sur franceinter.fr. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert, Camille, avec un vote hier soir à l'Assemblée nationale au sujet du plastique.
Oui, et pas n'importe quel vote, Mathieu. Écoutez comment Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, en parlait hier soir donc.
Je crois que c'est là un signal très puissant, très fort, très concret, presque, pour le coup, je le dis, historique, que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde.
Attendez, en fait, il manque quelque chose. On va réécouter la vidéo postée sur Internet par Brune Poirson elle-même, mais j'ai ajouté un petit truc.
Je crois que c'est là un signal très puissant, très fort, très concret, presque, pour le coup, je le dis, historique, que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde.
Voilà. Ah oui, ça semble être une énorme victoire pour la secrétaire d'État qui entoure la vidéo d'un gros bandeau. La France interdit les plastiques jetables, avec même une émoticône, les petits personnages, vous savez, sur les téléphones. Un bonhomme les bras croisés devant le visage pour dire non, hashtag une première, ajoute Brune Poirson. Très fière, hein, elle a partagé 4 vidéos sur son compte Twitter. Vote dans le cadre de l'examen du projet de loi anti-gaspillage en deuxième lecture à l'Assemblée. Un amendement sur l'interdiction donc des plastiques à usage unique d'ici 2040, 20 ans. Et du coup, l'annonce aux allures de victoire se transforme en énorme flop. Les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie depuis hier. Start-up procrastination, dans 20 ans, soit 4 fois le temps prévu pour reconstruire Notre-Dame. 20 ans, une certaine idée de l'urgence. Voici quelques-uns des centaines de commentaires que l'annonce a suscité. Brune Poirson a donc répondu ce matin dans une vidéo postée sur son compte. Quelle légende, la transition doit être radicale, pas brutale.
C'est un changement en profondeur. Mais on n'attend pas 2038, 2039, 2040 pour le faire. Ça commence dès aujourd'hui. Il y a des interdictions déjà qui existent, comme par exemple sur les gobelets en plastique, les couverts en plastique. Dans cette loi, nous en rajoutons d'autres, comme par exemple l'interdiction des jouets en plastique dans les fast-foods ou encore l'interdiction des plastiques, des boîtes en plastique en polystyrène expansé qu'ils ont utilisées par exemple dans les kebabs.
Alors ça sent un petit peu, même au niveau du son, la justification de dernière minute, le rattrapage face au bad buzz. 20 ans, c'est une génération, c'est long, et ça n'a pas échappé non plus aux associations comme Zero Waste France qui lutte contre la pollution plastique. Laura Châtel est en charge du dossier, j'ai pu parler avec elle tout à l'heure.
Se dire on a un objectif à 20 ans, ça paraît un petit peu ridicule. Surtout, ça paraît ridicule si c'est pas accompagné de mesures concrètes immédiates. Je pense que ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, c'est de savoir que d'ici un an, d'ici deux ans, tel produit plastique sera interdit, telle alternative va être massivement financée, la consigne sur le verre va se redévelopper. C'est ça qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, plutôt que de savoir que d'ici 20 ans, on espère avoir réglé le problème.
Mais Camille, des mesures existent déjà sur le plastique quand même.
Alors, il y a eu l'interdiction des sacs plastiques en 2017, même si on en voit encore. Et puis la plus récente, cette directive adoptée par l'Union européenne en mars dernier, qui porte sur une dizaine de produits en plastique, les plus répandus en fait sur les plages et les mers d'Europe. Les pailles, les gobelets, couverts, vaisselle jetable, coton-tiges, touillettes et bouteilles d'eau dans les cantines scolaires. Interdiction de vendre tous ces produits à partir du 1er janvier 2021. Ça devait être en 2020, là, mais le Sénat a repoussé l'échéance. Et les fameux emballages à kebab, dont parlait Brune Poirson. Mais pour tout le reste, le plastique qui nous entoure littéralement, il y en a partout, vous le savez, c'est plus compliqué. D'ailleurs, la secrétaire d'État l'a dit hier à l'Assemblée.
Je crois qu'on peut pas sortir du plastique jetable du jour au lendemain. D'abord parce que rien qu'en France, il y a aussi un débat. Il y en a qui nous disent qu'ils en ont encore besoin, d'autres que c'est uniquement pour certains usages. Bref, il y a encore des débats.
Et là, on parle des industriels. Du coup, quel est le plan du gouvernement ?
Définir avec les filières industrielles, et je sais combien de ce côté-ci, en particulier de l'hémicycle, c'est une inquiétude et un souci, avec les associations de consommateurs aussi, et avec les associations de protection de l'environnement, des plans à 5 ans, avec des objectifs réalistes et des solutions crédibles.
Voilà ce qu'ils appellent des plans pluriannuels, de la méthode, dit Brune Poirson, qui ne convainc pas Zero Waste France.
Ce flou semble peut-être indiquer le fait que c'est surtout une annonce, mais qu'il n'y a pas forcément de réflexion derrière sur comment on va y arriver.
Et en attendant, je rappelle ce chiffre donné par la Surf Rider Foundation. Cette fois, chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans dans le monde. Ça fait 250 kilos par seconde. Et tout à l'heure, à la COP25 à Madrid, la ministre Elisabeth Borne a rappelé la responsabilité à agir face à l'urgence climatique. Responsabilité de tous, mais d'abord des pays avancés qui ont un devoir d'exemplarité dans leur ambition et les moyens d'y parvenir. Mais donc, dans 20 ans.
Voilà, et le bad buzz de Brune Poirson que vous avez repéré, Camille Cronier, pour nous, et c'est bien sûr à réécouter sur franceinter.fr. Dans un instant, l'exploitation animale, c'est le sujet de notre Terre au carré avec ces animaux en captivité dans les cirques. On attend vos appels et vos messages sur franceinter.fr.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? ¶¶ since 303, I fought for something final, not the right to disagree.
Et c'était la voix de Leonard Cohen à l'instant, extrait de son dernier album.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà nos invités, André-Joseph Bouglione, ex-dompteur de tigres, hein, maintenant on peut le dire comme ça, et puis ce nouvel éco-cirque qui va démarrer en avril prochain. Est-ce qu'il y a d'autres d'ailleurs éco-cirques dans le monde qui existent, ou vous serez vraiment le premier sur ce terrain?
Je pense être le premier, vraiment.
Ouais. Ouais. Mmh. Bon, alors on vous souhaite bon courage, et vous serez nombreux d'ailleurs, hein, c'est ça. Le principe, c'est d'avoir aussi beaucoup d'artistes pour finalement remplacer les animaux qui ne seront plus là.
Eh bien, ils remplaceront jamais les animaux, parce que c'était des très bons artistes également. Mmh. Mais on va vraiment essayer de faire oublier au public qui voit un spectacle sans animaux.
Ouais. Alexandra Moret, de votre association Code Animal, on le disait, qui travaille maintenant depuis 10 ans sur ces questions. Quels sont les combats, alors, finalement, là, que vous menez, avec quand même, on le voyait, le regard de la société qui change?
Alors nous, on travaille beaucoup sur la captivité, en ce moment plus particulièrement sur les cirques. On est en bataille entre guillemets contre Joy Gartner, qui est le dresseur allemand, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a eu un accident sur l'autoroute en Espagne en 2018 et qui est de retour en France avec ses 4 éléphantes. L'accident avait fait un mort, Diana, on s'en souvient, je pense. Et là, on s'est rendu compte, on a identifié Belinda, qui est une des éléphantes, qui a une patte raide et qui est quand même sur la piste. Donc on a demandé à Elisabeth Borne de déclencher un contrôle sanitaire et potentiellement une saisie des animaux avant qu'ils repartent en Italie dans une semaine. Donc voilà, on est encore sur un sujet polémique.
Ouais. Et votre travail, c'est, donc vous dites en captivité, donc ça veut dire que peut-être la prochaine étape, ce sont les zoos, parce que c'est aussi...
Effectivement, on travaille déjà sur les zoos, en fait, depuis quelques temps maintenant. On a beaucoup d'enquêtes de terrain. On travaille actuellement sur le zoo de l'Orangerie, qui est à Strasbourg, qui est un zoo public, qui a des conditions horribles pour les singes, qui sont les macaques de Tonkéan, qui sont littéralement sur du béton. Donc voilà, on est sur ce genre de dénonciation. Le zoo d'Amnéville également, on a travaillé dessus. La France Bleu, je ne sais pas si je peux le dire, mais
si, bien sûr, ils ont fait un article cette semaine sur le cadavre d'un ours qui a été envoyé.
Olaf, exactement. Ouais. Donc voilà, et puis on travaille également sur la mise en place de structures d'accueil pour les animaux sauvages en France, parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il n'y en avait pas de structures d'accueil. Donc en fait, quand il y a une saisie, confiscation, quand des cirques arrêtent aussi, c'est très très compliqué de replacer les animaux. Donc nous, on a un partenariat aux Pays-Bas avec 30 millions d'amis pour travailler sur ce sujet-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a présenté au cabinet d'Elisabeth Borne.
Ouais. À Amnéville, en l'occurrence, c'est le cadavre d'un ours qui a été envoyé à la déchetterie.
Et qui a été refusé à la déchetterie, c'est voilà. Ça. Donc il a été tronçonné et on ne sait pas où il est maintenant. Ouais. Horrible.
Patrice nous dit bravo à Sandrine et André-Joseph Bouglione. L'empathie envers les animaux est une forme supérieure de l'intelligence humaine. S'en exonérer, c'est rogner sa propre intelligence, c'est abandonner une parcelle d'humanité. Vous avez une réponse à donner à Patrice, qui vous encourage finalement.
Voilà, je suis tout rouge.
Ouais, vous allez en faire part à votre famille alors ce message.
Je vais le renvoyer par mail.
Ouais. Vous êtes la bête noire aujourd'hui des circassiens, André-Joseph Bouglione, ou pas?
Ouais, on m'a dit que j'étais le vilain petit canard. Ouais. Alors au départ c'était un peu bizarre, pourquoi et tout ça. Puis en fait c'est sympa de me dire que je suis le vilain petit canard, parce que si on lit bien l'histoire, la vraie histoire du vilain petit canard à la fin. C'est un grand signe. Oui. Donc c'est parfait.
C'est ce qu'on vous souhaite avec l'éco-cirque.
Merci.
En tout cas.
Votre relation avec les tigres, en l'occurrence, ça vous manque pas? Malgré le fait que vous avez expliqué que vous leur faisiez du mal, mais
c'est pas que je leur faisais du mal, c'est que je pensais bien les soigner, et puis en fait en captivité, quoi qu'il arrive, ils sont quand même en captivité. Voilà, c'est une prison dorée ou c'est une prison, mais voilà. Et est-ce que ça me manque? Eh bien, vous savez, on passe pas toute une vie avec des animaux, on n'arrête pas du jour au lendemain sans ressentir un manque. Évidemment, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut faire avec. Ça fait partie des progrès qu'on doit. Des sacrifices aussi peut-être qu'on doit faire. On peut pas proposer un nouveau paradigme sans sans en payer le prix.
Alexandre Amorette, un message de Jacques sur franceinter.fr. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique et interdire les chiens, les chats, les chevaux domestiques et les canards peut-être aussi?
Voilà, oui, pourquoi
c'est
pas.
C'est toujours la même, le même argument. Hein. Nous, on travaille beaucoup sur les animaux sauvages, qui est notre spécialité, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des études scientifiques qui prouvaient le mal-être de ces animaux en captivité. Surtout que c'est de la captivité pour le divertissement humain. Donc les cirques, ils n'ont aucun rôle de conservation pour les espèces. Dans les zoos, on a 5% des animaux qui sont sur liste rouge IUCN, des animaux sauvages qui sont sur liste rouge IUCN, selon notre enquête de 2011. C'est-à-dire que 95% des animaux ne sont pas en voie de disparition dans les zoos. Donc voilà, on a vraiment ce divertissement qui est là. Et après, oui, nous, sur les animaux domestiques, c'est... voilà, on va pas se prononcer. Il y a des associations qui travaillent beaucoup mieux que nous.
C'est le pas sort du caniche abricot ne vous intéresse pas, Alexandra Moret?
C'est vrai qu'il ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas les compétences pour juger.
Alors, par en plus, c'est un argument qui est plutôt une manœuvre dilatoire.
Exactement. C'est, on déplace le débat et on traite pas le sujet de fond qui est aujourd'hui.
Mais on peut le traiter en parallèle aussi.
On peut le traiter en parallèle. C'est pas mais ce n'est pas notre spécialité.
Par rapport à ce que vous disiez, Dominique demande sur l'application France Inter s'il existe un service qui recense les animaux sauvages dans les zoos et les ménageries en France. Et si oui, comment accéder à cette information?
Alors oui, récemment, c'est le fichier IFAP qui a été mis en place par le ministère de l'écologie cette année. Il n'est toujours pas complété. Nous, on se bat pour avoir les statistiques parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun chiffre officiel sur le nombre d'animaux, individus et espèces présentes dans les divertissements en captivité, en tout cas en France. Donc normalement, le public, c'est des données publiques. Le public, les citoyens peuvent avoir le droit à ces données-là, mais ce n'est pas encore mis à jour.
André-Joseph Bouguillon, est-ce que vous sentez vraiment le changement sociétal dont on parlait tout à l'heure, sur les parents, par exemple, qui maintenant hésitent ou refusent même d'emmener leurs enfants voir des animaux dans les cirques, hein? Vous avez vraiment observé ça? Vous avez pu parler avec eux un petit peu?
Non seulement je le sens, je l'ai même, comment dire, carrément vécu, mais ça va plus loin. Ça dépasse le cadre des parents. Ce sont les enfants, parfois, qui convainquent les enfants, les parents.
Les parents, ouais.
Bien sûr, ce sont les enfants qui prêchent la bonne parole, quelque part, et qui, devant un établissement, disent « Non, maman, j'ai pas envie d'y aller. Non, papa, regarde les animaux. J'ai pas envie de voir ça. » Évidemment. Parfois, les enfants sont beaucoup plus sensibles à ce problème et leur influence est plus grande encore que les parents sur les enfants. C'est très drôle.
Camille, vous posez une question en antenne tout à l'heure sur la capacité réellement de faire un spectacle d'envergure.
Est-ce qu'un cirque peut être spectaculaire sans animaux?
Ben alors, dans ce cas-là, il faudrait vraiment s'interroger sur le succès du Cirque du Soleil. Parce que je pense qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et que des spectacles qui marchent sont forcément d'une certaine qualité, d'un calibre. Et quand on voit aujourd'hui la réussite des cirques sans animaux dans le monde, et quand on voit en France la situation des cirques animaliers, quand on constate la faillite des cirques Pinder, des cirques d'hiver Bouglione en tournée, mes cousins, qui avaient pourtant un très bel établissement et qui n'ont pas pu se maintenir. Pourquoi, à votre avis? Parce que le public boude.
Règlement de compte.
Donc finalement, c'est peut-être une façon pour vous de vous adapter aussi à l'air du temps. Alors non, c'est une conviction à la base quand même.
Au départ, c'est une conviction, mais je vais pas me flageller parce que c'est aussi une aspiration sociétale, évidemment.
Alexandre Amorette, la dimension écologique justement dans la démarche maintenant d'André-Joseph Bouguillon, ça vous intéresse vous aussi dans votre association, au-delà de la défense des animaux?
Oui, effectivement. Donc nous, on se bat pour la conservation in situ, donc dans le milieu naturel, avec toutes les problématiques que ça peut également avoir. Et oui, la dimension écologique nous intéresse énormément. Par exemple, sur les nouveaux animaux de compagnie, on s'intéresse...
Les nacs.
On s'intéresse sur les espèces invasives qui coûtent des millions d'euros en France et à l'étranger. Donc c'est vraiment des questions qui nous intéressent. On est en relation avec la CITES également, qui régit le commerce international, et l'IUCN, qui nous aide aussi sur des problématiques.
Est-ce qu'on voit une baisse quand même aujourd'hui de ces NAC en France, ou c'est encore très très timide?
C'est une question qui est très compliquée, qui nécessiterait éventuellement une autre émission, mais non, en fait, c'est très complexe, c'est l'animal-objet toujours, et il y a une augmentation même sur les reptiles notamment et les oiseaux.
Et puis ce rapport, donc derrière les paillettes, le stress que vous aviez sorti en 2018, qu'on peut lire facilement en allant sur le site de Code Animal.
Sur le site de Code Animal, passer via notre plateforme Eloasso.
Avec toutes vos observations, justement, sur le comportement anormaux des animaux
écrit par
captivité.
Franck Schrafteter, Céline Pater et Julie Lann.
Merci beaucoup à tous les deux. André-Joseph Bouglione, donc Contre l'exploitation animale, ce livre, L'envers du décor, votre envers du décor, vous, ancien dompteur, est publié chez Tchou. Et puis on vous souhaite donc bonne chance avec cet éco-cirque qui va démarrer en France à partir du mois d'avril prochain.
Grand merci.
Dans un instant, nous repartons en Islande avec Guy Vangtil, nouveau reportage autour des data centers. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, après Marseille, Lyon, Rennes ou encore Clermont-Ferrand et Bourges, ce matin, les manifestations de l'après-midi contre la réforme des retraites. Il y en a une à Toulouse actuellement, celle de Paris a quitté les Invalides il y a quelques minutes pour se rendre à Denfert-Rochereau. Ce que les cortèges ce matin ont révélé, c'est une mobilisation en baisse par rapport à jeudi dernier. Philippe Martinez de la CGT, qui est actuellement dans le cortège parisien, ne le nie pas, mais l'explique aussi.
Évidemment, il y a moins de monde à Paris, il y a moins de monde dans un certain nombre de villes. J'ai pas tous les chiffres, mais il y a toujours des personnes mobilisées. Il y a du monde sur les piquets de grève et eux, ils restent sur les piquets de grève. Faire grève, c'est pas facile, surtout dans un pays où les salaires sont bas. Faire grève, c'est aussi risquer des sanctions. Vu le niveau de mécontentement, évidemment, il y a besoin de rester mobilisé, d'amplifier la mobilisation. Après, si demain le Premier ministre nous annonce que finalement il a bien réfléchi avec le président de la République et qu'il non seulement il retire le projet, mais qu'en plus nous travaillons sérieusement pour améliorer notre système actuel, il n'y a aucune raison que la grève continue. Je pense que, y compris pour les usagers des transports, ça serait une bonne nouvelle que le gouvernement annonce que finalement il a entendu l'opinion publique, il a entendu le mécontentement et qu'il retire son projet pour partir sur d'autres bases.
Des propos recueillis par Claire Chaudière. Avant même le départ du cortège parisien, la préfecture de police a annoncé qu'un millier de contrôles préventifs avaient été effectués. Du côté des blocages dans les transports, les chiffres de la mobilisation à la SNCF, 24,7% aujourd'hui, mais dans le détail, ça ne change pas chez les conducteurs de train. Trois quarts d'entre eux sont en grève et plus d'un contrôleur sur deux. Dans la fonction publique, selon le secrétaire d'État Olivier Dussopt, on compte aujourd'hui 5,8% de grévistes contre 21% la semaine dernière. Du côté du gouvernement, Philippe Martinez en parlait, on serre les rangs. Édouard Philippe a prévenu les députés En Marche ce matin. Il ne fera pas d'annonce magique demain qui puisse faire arrêter les manifestations. Le Premier ministre éthiopien était à Oslo en Norvège aujourd'hui pour recevoir son prix Nobel de la paix. Dans son discours, Abiy Ahmed a associé les ex-ennemis érythréens qui ont fait, dit-il, le sacrifice ultime pour la cause de la paix et ont mis fin à 20 ans d'impasse entre les deux pays. Il a également fustigé les prêcheurs de la haine dans son pays. Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie, noyée par un épais nuage de fumée toxique. Il est si gros et épais qu'on ne voit rien jusqu'en mer. Des liaisons ferries ont ainsi été annulées, les cours de récréation des écoles supprimées. Sydney et plus globalement l'Est de l'Australie subissent de plein fouet les fumées issues des incendies de forêt. Le phénomène qui a plusieurs mois maintenant s'est aggravé aujourd'hui. La faute au vent fort et aux températures élevées à plus de 40 degrés qui attisent les braises. Les incendies ont déjà détruit près de 320 000 hectares de terre, principalement dans les parcs nationaux, ce qui correspond, vu d'ici, a priori, à l'équivalent de la moitié de la Suisse qui aurait brûlé. 14h03 sur Inter, la Terre au carré, la suite, Mathieu Vidard.
Merci beaucoup Laetitia Gaillet, à tout à l'heure.
France Inter, la Terre au carré.
Et au cours de cette deuxième demi-heure, vous saurez tout sur la coquille Saint-Jacques. Alors, inutile de chercher des recettes pour le réveillon. Non, 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 non. Nous allons recevoir un chercheur, Laurent Chauveau, qui publie un livre passionnant sur ce mollusque qui est avant tout, vous le découvrirez, une véritable sentinelle de l'environnement. Mais pour le moment, un nouveau reportage de votre série consacrée à l'Islande. Guy Vangtil, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Second épisode donc dans ce pays qui est aussi la terre des data centers pour parler de l'impact environnemental du numérique.
Oui, car si les centres de données dont nous dépendons tous dans nos sociétés connectées se multiplie dans ce petit pays qui est le premier producteur d'énergie par habitant grâce à ses barrages et à sa géothermie, c'est parce que ces gros consommateurs d'électricité recherchent aussi le froid à peu près constant qui y règne, quitte à éviter de se poser trop de questions sur la surconsommation d'électricité ou la sobriété numérique. Alors on retourne dans un de ces data centers flambant neuf où l'on nous souffle le chaud et le froid.
There's a place on Earth like no other. place that's transforming the way data is powered.
Wow.
And that's bringing a green revolution to the data center industry.
This is a 21st century mining.
Voilà à quoi ressemble une mine du 21e siècle.
Yes, yes, definitely, yeah.
Here in Iceland, we offer our clients state-of-the-art infrastructure for data center needs.
Einar Tomasson, Project Manager at Invest in Iceland.
Einar Tomasson, je suis directeur de Invest in Iceland, investissez en Islande.
And one of my roles is to attract data centers to Iceland.
Un de mes rôles est d'attirer les data centers. Et pour ça, vous dites, dans votre brochure, it's the coolest location for data centers. C'est l'endroit le plus cool pour les centres de données.
Yeah, I think number one, it's Iceland is simply cool.
Parce que l'Islande, c'est cool, tout simplement.
And then we use the outside air cooling to cool down the servers.
Et surtout, il y a l'air extérieur qui est froid et qui permet de refroidir les serveurs informatiques.
And that, of course, means a lot of savings for data center operators.
Ce qui veut dire beaucoup d'économies pour les serveurs de données, les data centers.
Yeah, so Iceland is cool.
Voilà pourquoi l'Islande est cool.
Yeah.
Principal inconvénient des serveurs, ils chauffent.
Ouais, Chalugor, on va continuer la visite.
Et ils risquent de tomber en panne. Il faut donc faire circuler de l'air pour les rafraîchir. Et ça aussi, ça consomme beaucoup d'énergie.
Je passe par un... Ah. Wow. Il y a l'air chaud qui est pulsé par tous ces calculateurs qui sont à la queue leu-leu sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 étages. Des étagères qui montent à 2,50 m de haut. Et il y en a à perte de vue.
Si l'infrastructure nuagique est imposante, la technologie qui supporte son bon fonctionnement est, disons-le,
un enfer des temps modernes.
Très, mais là, très énergivore.
Je sors d'ici et on arrive dans l'autre pièce où on a l'impression tout d'un coup que le niveau sonore est presque acceptable. On a chaud.
Yeah, it's hot, but it can be hotter.
Ah oui, il fait chaud, mais ça peut même être plus chaud.
Yeah, with high peaks, 60.
Avec des pics parfois qui montent à 60 degrés.
Yeah.
Tout ça, c'est la chaleur qui est générée par les processeurs et les ordinateurs qui calculent.
Yes, yes.
Okay.
But I was gonna show you outside.
Maintenant, on va aller voir le reste du site. Une autre porte. Et on ressort. Ah voilà, nous voilà à l'extérieur maintenant. Et c'est ici qu'on voit des grilles d'aération sur les deux côtés du bâtiment. Il y a l'air froid de l'Islande qui souffle.
And here we always have good weather.
Ici, il fait toujours bon.
Maybe 20.
Et ici, là, il fait toujours à peu près 20 degrés toute l'année à cause de la chaleur. Vous chauffez l'air de l'Islande.
Yes, yes. Yeah, I wish you'd have here some sunbeds and palm trees and.
Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas mis des palmiers, Viruna, et puis des serviettes de bain.
Yeah.
Oui, c'est ça. Parce que toute cette chaleur, elle est dissipée dans l'air. Elle n'est pas récupérée, elle n'est pas réutilisée.
Not yet. That hopefully is the next step.
Pas encore. On espère peut-être que ça sera la prochaine étape.
Probably, probably.
Alors, on rentre dans le bâtiment. Merci. Et là, on revient. Et là, on revient dans la partie bureau qui tout d'un coup est calme. Hello.
My name is Arnie Jensen, Chief Business Officer of Ethics Everywhere Borealis.
Alors, je suis Arnie Jensen, responsable chef de Ethics Everywhere Borealis.
One of three data center operators operating in Iceland.
Vous êtes une des trois sociétés qui se battent pour ce marché des data centers et des centres de minage ici en Islande. Et justement, Arnie Jensen, pourquoi c'est le business où il faut être, les data centers aujourd'hui?
Well, all of us have devices and we are generating data at an unprecedented rate.
On a tous des appareils qui produisent des quantités incroyables de données.
And whenever you take a picture on your phone and you send it to a friend, three copies get distributed to various locations in the world stored in a data center.
Par exemple, chaque fois que vous prenez une photo avec votre téléphone portable et que vous l'envoyez à un ami, il y a trois copies qui sont envoyées dans trois data centers différents à travers le monde.
There's always duplicated. There's a copy. And there's a copy of the copy, and there's a backup of the backup.
Il y a toujours une copie de la copie, et une sauvegarde de sécurité de la sauvegarde de sécurité.
Mm-hmm.
Donc on va continuer, encore et toujours, de produire des données.
Yes, I mean, currently, about 5 years ago, 2% of the world electricity went into data centers.
Il y a 5 ans de ça, 2% de l'électricité produite dans le monde allait pour faire tourner les data centers.
Today, it's about 3%.
Et aujourd'hui, c'est à peu près 3%.
50% increase.
Une augmentation donc de 50%.
5 years.
En 5 ans.
That is huge.
C'est colossal.
La consommation énergétique des technologies qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur si le système actuel n'est pas amélioré. L'impact environnemental du numérique.
I'm Smar McCarthy, I'm a member of parliament in Iceland.
Merci de me recevoir dans vos bureaux, monsieur McCarthy. Je répète, vous êtes député ici pour le parti pirate. Et votre pays est devenu maintenant, en misant sur le côté vert, entre guillemets, et renouvelable de ses énergies, est devenu la Mecque des data centers.
Yeah, and so data centers are not inherently bad.
Les centres de données ne sont pas un mal en soi.
But we need to be mindful of how we use them.
And il faut faire attention à la manière dont on les utilise.
We have all these ads being served on the internet, and the carbon footprint of that is pretty big.
Et par exemple, le poids, donc l'empreinte carbone de l'internet est de plus en plus lourde pour faire passer des publicités.
And as the climate crisis gets bigger, as we need to be more mindful of how we use energy.
Et à mesure que la crise climatique devient de plus importante et qu'on est obligé d'être plus conscient sur les enjeux énergétiques et climatiques.
We also need to talk about.
Mais c'est aussi une question qu'on doit se poser.
Merci.
Eh bien, demain, on va justement continuer à se poser des questions sur cette surconsommation numérique, en particulier sur un autre usage des data centers d'Islande, les usines à Bitcoin, fermes de minage dans la course globale aux crypto-monnaies.
Guy, vous nous avez rapporté des photos parce qu'on aimerait bien voir à quoi ça ressemble, ces gros data centers horribles.
Voilà,
là.
Avec des gens tout petits au milieu. Ouais.
Donc c'est sur franceinter.fr et sur la page de la Terre au Carré. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
I may be long to see me lonely. Never you're gonna Ibi ele mongo dona ona kile masa bunyuma dunya bechini.
Dans un instant, nous parlerons des talents de la coquille Saint-Jacques avec notre invité, le chercheur Laurent Chauveau, qui publie un livre à ce sujet, La coquille Saint-Jacques, Sentinelle de l'océan, s'apparaît aux éditions Équateur.
Ma sœur, nous avons
C'était Clara Luciani.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Il est bon, je crois, de conter ici la légende de la coquille Saint-Jacques. Au Moyen-Âge, donc, les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle portaient accrochée au cou une coquille avec laquelle, lorsqu'ils s'arrêtaient, ils buvaient l'eau des sources ou des fontaines. De là est venu le nom de la coquille Saint-Jacques.
Voilà, c'était Bretagne Actualité en 1965. Bonjour Laurent Chauveau.
Bonjour.
Bienvenue, vous qui êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut Européen de la Mer à Brest et qui publiez donc aux éditions des Équateurs La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan. Alors c'est vrai, je le disais tout à l'heure, inutile de rechercher une recette pour préparer ces coquilles Saint-Jacques pour Noël. Ça n'est pas du tout l'objet de votre livre. C'est avant tout l'histoire d'une recherche scientifique et d'une question écologique. On peut simplement dire que les Français adorent ces mollusques, hein.
Oui, oui, ça reste que la coquille Saint-Jacques est quand même adorée des Français. Ils en mangent des quantités industrielles. Et on est, c'est tellement vrai qu'on est obligé d'en importer énormément.
Incroyable. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes passionné, vous, à ce mollusque? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en savoir plus et d'en faire vraiment des recherches, hein?
Ah, mais d'abord parce que j'ai trouvé quelques professeurs à l'Université de Bretagne Occidentale qui m'ont intéressé à la biologie marine. Puis, j'ai fini par candidater pour une thèse en écologie, en biologie marine dans la même université. Et on m'a proposé comme sujet la coquille Saint-Jacques. Et de fil en aiguille, ce sujet m'a complètement fasciné. Mais pour en faire un outil scientifique, pas complètement une perversion ou une obsession. C'est simplement un beau modèle d'études en écologie marine.
D'où le titre de sentinelle, finalement, de l'environnement.
Oui, on a fini par transformer cet animal en une sentinelle, un animal qui est capable de nous indiquer pas mal de choses sur les propriétés de l'eau de mer, sur ses contaminations, ses pollutions ou ses fonctionnements naturels.
C'est ça qui est fascinant dans la coquille Saint-Jacques. Vous parliez à l'instant d'avoir une passion, une fascination pour elle.
Oui, le virage a eu lieu au moment où on découvre que cette coquille est capable de fabriquer une structure à l'échelle du jour. Et la coquille Saint-Jacques est devenue sous nos yeux le jour où on a déterminé que non seulement c'était comme un arbre, elle déposait une cerne annuelle, comme sur les arbres on est capable de connaître son âge assez rapidement en regardant le nombre de cernes hivernales qui sont déposées, mais entre ces cernes hivernales figurent des toutes petites marques qui sont déposées à l'échelle du jour. Et cette coquille est devenue ce jour un calendrier, et pour un écologiste avoir un calendrier au fond de la mer entre 2 mètres de profondeur et 500 mètres de profondeur du Maroc à la Norvège, c'est immédiatement un outil incroyable parce qu'on peut étudier la croissance à l'échelle du jour et des phénomènes écologiques qui ont lieu à cette échelle-là, et pas à l'échelle de l'année.
Donc c'est une machine à remonter le temps, la coquille Saint-Jacques, qui nous donne plein d'indications sur l'environnement passé, avec ses stries sur la coquille.
C'est ça. Une fois qu'on a admis que c'était un calendrier, qu'elle grandissait à une échelle journalière, prélevé, d'abord on est capable d'étudier la croissance tous les jours, la distance qui sépare deux petites marques journalières donne la croissance tous les jours de cet animal, donc la réponse à sa nourriture, à la salinité, à la température, à la vitesse du courant sont inscrits dans la structure même de l'animal, mais dans la chimie du squelette, comme on le ferait en polyscientifique, on réussit à avoir des informations comme la température de l'eau de mer, la salinité, la dynamique des microalgues, si vous voulez, la vitesse de rotation de la Terre ou la présence du pétrole de l'Erika ou du nickel en Nouvelle-Calédonie.
Tout ça, c'est dans la coquille.
Tout ça est archivé parce que elle a la propriété ou une structure carbonatée, elle a la propriété de piéger des éléments chimiques dans les cristaux de carbonate dans le squelette. Donc vous pouvez, moyennant quelques recettes de cuisine qui sont propres à la chimie analytique et à l'isotopie, vous êtes capable d'accéder à des informations et à rétro-calculer la température de l'eau de mer avec une précision de 0,3 degré, mais à l'échelle du jour.
Incroyable.
Vous parlez d'animal pour la coquille Saint-Jacques. C'est un être vivant, mais il y a, je sais pas moi, dans quand j'entends animal, j'ai
pourquoi
l'impression
quelque chose qui pense.
Vous avez l'air interloqué. Moi, ça me paraît bizarre, animal pour une coquille Saint-Jacques. On parle d'animal pour un mollusque, pour un.
Ah oui, dans le règne des animaux, c'est pas un végétal, c'est pas une bactérie, c'est un animal. Ouais. Ça appartient au groupe des animaux.
Ouais. Par contre, la différence entre la palourde et la coquille Saint-Jacques, c'est quoi exactement alors?
C'est dans la façon dont est organisé, pas du tout l'animal, je répète ce mot, c'est pas la partie tissu mou, mais c'est bien la structure de la coquille elle-même qui est assez différente et qui est apparue sur notre planète un petit peu plus précocement que la palourde.
Alors juste cette machine à remonter le temps, Laurent Chauveau, là, que vous décrivez, avec tous ces indicateurs de l'environnement, la coquille a une durée de vie de combien de temps d'abord?
Alors, la durée de vie, on va dire, elle est entre 10 et 20 ans selon l'endroit où vous la prélevez. Mm-hmm. La durée de la croissance, elle varie de l'Espagne entre 4 ans, 5 ans, à 15 ans en Norvège.
Bon, donc une coquille qui a 15 ans, on aura des indications sur 15 années, on est d'accord avec ça?
Oui.
Donc ça veut dire que quand on retrouve des vieilles coquilles Saint-Jacques, et on peut retrouver de très très anciennes qui remontent même jusqu'à l'Antiquité par exemple?
Même au Néolithique, puisque au Néolithique on a déjà des hommes qui reconnaissent dans la coquille Saint-Jacques un symbole, généralement de chef, et ces gens étaient enterrés ou utilisés en pendentif des coquilles Saint-Jacques comme un outil qui les plaçait symboliquement au-dessus de la mêlée.
Et alors là, et donc, du coup, on peut retracer l'environnement depuis ces temps très lointains.
Voilà, vous pouvez calculer la température de l'eau de mer pendant la baignade de Cro-Magnon, si vous voulez.
Incroyable. Alors, ces coquilles Saint-Jacques, on en apprend beaucoup. Et alors, vous citez un épisode de 1963, un épisode étonnant survenu justement au large de Brest, mais pas seulement, sur toute la Bretagne. Un épisode, un gros coup de froid.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé en 63 exactement?
Un vent sibérien souffle sur la France et sur la Bretagne en particulier pendant une période longue. Et ce froid est suffisamment intense et suffisamment long pour que apparaisse une banquise dans les baies fermées ou semi-fermées, telles que la rade de Brest, la baie de Saint-Brieuc, une partie de la baie de Saint-Brieuc, où le fond des ports bretons était à l'état de banquise. Il était possible de se promener sur le port du Légué à pied.
Et ça, ça se voit dans la coquille?
Alors, ce qu'on voit très nettement, c'est un effondrement des stocks en Bretagne cette année-là. C'est-à-dire que les stocks de coquilles Saint-Jacques, qui étaient déjà malmenés par une activité de pêche assez intense, s'effondrent. En fait, c'est le coup de grâce, notamment en rade de Brest, à un stock qui était déjà fragilisé par la pêche.
Ouais. Et on s'en est jamais vraiment remis, d'ailleurs.
Et c'était la question, le sujet de la thèse. Je participais à ces travaux. Peut-on comprendre pourquoi ce stock reste-t-il à l'état relictuel 20 ans après cet événement?
Ouais.
C'était la question qui était très centrée sur les propriétés de l'eau.
Ouais. Donc ça veut dire que la coquille Saint-Jacques est très sensible à son environnement.
Le cycle vital de la coquille Saint-Jacques peut être perturbé soit au stade larvaire, soit au moment de la reproduction, soit au moment de la croissance des individus quand ils sont juvéniles et ou adultes. Donc elle est sensible à la qualité de son environnement. Oui. Elle est sensible à...
Elle entend, elle voit, puisque c'est un animal. Donc...
Oui, alors voilà, elle a un cœur.
Un animal sensible.
Voilà, je vous montrerai les battements cardiaques d'une coquille Saint-Jacques.
Vous êtes traumatisé, Camille.
Non, mais mon métier, c'est de poser des questions, même les plus bêtes.
Non, elle est parfaite, elle m'a simplement surprise.
Mais il y a plein de gens qui se posent la question aussi.
C'est bien un animal qui a des yeux et qui voit plutôt bien.
Elle a pas de cerveau, la coquille Saint-Jacques.
Elle a pas encore un cerveau, elle a des ganglions nerveux déjà bien organisés.
Alors, autre question naïve à dessein, est-ce que la coquille Saint-Jacques sent, par exemple, quand on la fait cuire, est-ce qu'elle souffre?
Ça, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Cet état assez primitif de ce tissu nerveux invite à répondre que non. Mais nos progrès et nos découvertes récentes en termes de souffrance et de sensibilité des animaux m'invitent à être prudent. Je ne pense pas que ça soit vrai, mais bon, j'ai pas la certitude.
Ouais. En tout cas, Laurent Chauveau, on apprend plein de choses. Par exemple, que la coquille Saint-Jacques émet du CO2.
Oui.
Et qu'on peut même calculer que finalement c'est pas anodin du tout quand même.
Ah non, c'est vrai pour tous les mollusques c'était très intéressant de faire ça, ce petit calcul, cette gymnastique en baie de San Francisco. La baie de San Francisco, au début des années 2000, voyait une espèce exotique arriver et s'installer toutes les 12 semaines. Oui, ça voulait dire que cet écosystème est envahi par des eaux de ballast, notamment des mollusques. Et un petit clam chinois était arrivé au record de 80 000 individus au mètre carré. Et 80 000 individus d'une petite palourde au mètre carré, c'est évidemment un animal qui respire, et donc qui produit du CO2 par sa respiration. Mais la calcification et la fabrication du squelette produit également du CO2. Contrairement c'est contre-intuitif, mais faire du carbonate de calcium, ça produit du CO2 pour l'atmosphère.
Ouais.
Le bilan a été l'équivalent de 80 000 voitures venant d'arriver au fond de la baie de San Francisco qui tournait 24 heures sur 24.
Bon, comme ça, c'est pas terrible pour l'environnement. Alors finalement,
l'invasion, vous en avez parlé à plusieurs reprises dans cette émission, une invasion d'espèces est souvent une catastrophe.
Ouais. Donc on fait bien d'en manger?
Donc on fait bien d'en manger, oui, et on fait bien de pas transporter des espèces d'un écosystème à un autre, ça c'est vrai.
Qu'est-ce que vous allez faire en Antarctique? Parce qu'elle vous fait voyager aussi, la coquille Saint-Jacques.
Une fois qu'on a mis au point un outil en Bretagne, et particulièrement en rade de Brest, on se dit on peut le faire sur la façade atlantique européenne. L'animal, je vous l'ai dit, est du Maroc à la Norvège. Et on a fait ça pendant 10 ans. Puis on s'est dit si on peut le faire en zone tempérée froide, on peut le faire sous les tropiques. On est parti en Nouvelle-Calédonie et au Chili. Puis on s'est dit si on est capable de le faire en tempérée, en tropicale, pourquoi pas tenter l'aventure du milieu polaire. Et on a fait 4 missions.
Et donc il y a de la coquille aussi là-bas.
Il y a un pétoncle qui est circumpolaire en Antarctique. La même chose en Arctique, il y a même plusieurs en Arctique. Et on a fait exactement la même chose, obligé des animaux à nous raconter l'histoire de l'Antarctique et de l'Arctique.
Un pétoncle, c'est pareil qu'une coquille Saint-Jacques?
C'est une excellente question.
Que j'ai déjà posée, mais elle n'écoute rien du tout, Camille Cremier.
Non, mais en Antarctique, en l'occurrence.
En français, on fait la différence entre une coquille Saint-Jacques et un pétoncle. Une coquille Saint-Jacques a toujours la valve gauche plate, donc quelque chose de plat à la surface. Et les pétoncles ont les deux valves bombées. Donc c'est la même famille. Mais avec une différence notable.
Je voulais savoir si en Antarctique, il y avait des coquilles Saint-Jacques ou que des pétoncles.
Il n'y a que des pétoncles.
Merci.
Bon, vous les aimez comment?
Vous
les aimez comment, les coquilles, vous, Laurent Chauveau?
Cru.
Simplement, comme ça?
Ouais,
en carpaccio?
En carpaccio, parfait.
Très bien. Bon, et encore une fois, il n'y a pas de recette dans votre livre, mais c'est largement aussi passionnant que d'avoir un livre de recettes. Ça s'appelle La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, et c'est de la vraie science. Et c'est publié aux éditions Équateur. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous, Marie.
Aujourd'hui, dans la Terre au Carré. Merci, Camille. À demain.
Je sais pas.
Arrêtez de bouder.
Allez, à demain. Après-midi.